Bien, nous allons reprendre pour la première session, dont l'intitulé est scène locale, au pluriel. Alors, juste, je vais me présenter, je suis Stéphane Dorin, professeur de sociologie à l'Université de Limoges, et je suis très très heureux d'avoir été invité à présider cette session par les organisateurs du colloque, dont je salue aussi l'efficacité et puis on peut dire aussi l'importance. Je pense que c'est un colloque qui fera date dans l'histoire des hip-hop studies en France. Ce matin, donc, nous allons écouter trois intervenants. Je vais vous les présenter rapidement, puis leur céder le plus vite possible la parole pour que nous puissions avoir en fin de session un temps d'échange. Donc, la première intervenante est Anna Cuomo, doctorante en anthropologie sous la direction de Michel Agi à l'EHESS, et qui nous parlera de la scène rap au Burkina Faso. Alors, il est peut-être à noter aussi que ici nous aurons deux intervenantes qui nous parleront du rap en dehors des lieux, on va dire centraux, de la modernité occidentale, en l'occurrence avec deux terrains africains, et Jérôme Guibert qui nous parlera lui d'un terrain français. Alors, il est intéressant ici aussi peut-être d'un point de vue un peu conceptuel de noter l'interaction entre la notion de scène dont beaucoup d'entre vous sont sans doute familiers, qui vient de la sociologie et de l'anthropologie anglo-saxonne, dont Jérôme a fait une synthèse en français dans un livre que j'avais édité il y a quelques années. Et l'interaction entre ce concept et celui de circulation et de transnationalisme, là qui vient plutôt des global studies, et notamment de l'intérêt pour la globalisation culturelle et l'impact des circulations des formes culturelles occidentales ou non dans d'autres lieux, et les formes d'appropriation locale, d'acculturation. Là, il y a toute une tradition en anthropologie sur l'appropriation et la façon dont ces formes culturelles sont adaptées localement. Et c'est ce dont nous allons entendre discuter aujourd'hui. Donc, je reprends sur ce que va nous présenter Anna Cuomo, c'est la fabrication en fait d'un rap africain au Burkina Faso, et l'influence du contexte de la mondialisation. Nous entendrons ensuite Jérôme Guibert, qui est maître de conférence à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, et qui a fait beaucoup d'études de terrain sur la musique populaire, notamment dans les pays de Loire, et qui nous présentera aujourd'hui une approche finalement socio-historique des débuts d'une scène musicale à Nantes, la scène donc du hip-hop. Et ce qui est intéressant, sans doute ici on aura plusieurs questions à lui poser, c'est sur l'historicisation évidemment du concept de scène, comment émerge une scène, quels sont les éléments d'accroche qui permettent de développer ou non une scène locale. Et enfin, nous écouterons Cécile Navarro, qui est doctorante en anthropologie à Lausanne, à l'université de Lausanne, et qui nous parlera des pratiques circulatoires d'artistes de rap au Sénégal, et comment la circulation engendre aussi les scènes musicales, comment les mobilités, les déplacements sont à l'origine de nouveaux ancrages, avec le cas du Sénégal. Et tout de suite, donc, je laisse la parole à Anna Cuomo.
Merci beaucoup, bonjour à tous. Déjà, je tiens à remercier les organisateurs du colloque pour l'organisation et aussi pour avoir accepté ma communication. Donc, ma communication, elle s'inscrit dans le cadre d'une thèse d'anthropologie en cours sur la pratique du rap au Burkina Faso, notamment sur la création d'un rap institutionnalisé appelé localement le tradit moderne, sous-tendu par des enjeux politiques très forts, des questions de légitimité, d'authenticité, de visibilité et d'accès à la reconnaissance que j'essaie de comprendre et d'analyser. Aujourd'hui, ma communication va porter sur une autre manière de faire du rap, pour reprendre l'expression de Michel Desserteaux, qui constitue en quelque sorte une frontière de ce que j'étudie centralement. Il s'agit d'artistes revendiquant une démarche underground, terme sur lequel évidemment je vais revenir, et je vais commencer d'abord par une rapide contextualisation. Donc la culture hip-hop, elle arrive au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest de manière plus générale dans les années 80, d'abord par la pratique de la danse, puis la musique rap se diffuse d'abord dans un cercle restreint via une jeunesse issue de milieux aisés qui ramène de voyages aux États-Unis et en Europe des vidéoclips, des cassettes, des vêtements, etc. La libéralisation des ondes et le développement des médias privés contribuent à la popularisation du rap dans les années 90, principalement en milieu urbain. L'émergence de rappeurs burkinabés sur les scènes musicales nationales à la fin des années 90 et surtout au début des années 2000 va de pair avec un processus d'appropriation ou d'indigénisation désormais largement traité dans les études sur le hip-hop en Afrique et ailleurs. Je vous mets quelques références. Au Burkina Faso, cette dynamique s'ancre dans une politique culturelle de modernisation du terroir, entre guillemets, qui multiplie les aides aux créations dites « tradis modernes ». Via des acteurs culturels burkinabés, souvent nés en Côte d'Ivoire. Ce terme employé localement désigne pour les acteurs toute chanson s'inspirant d'éléments d'un terroir burkinabé, donc des chants, rythmes, danses, instruments reconnus comme traditionnels, enregistrés avec la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, ou mélangés à d'autres instruments type guitare, basse, batterie notamment. Les institutions culturelles locales comme internationales ont commencé à voir dans cette démarche une affirmation identitaire nationale forte, permettant de créer une unité nationale et de l'exporter dans le contexte de mondialisation. À côté de cette dynamique prônée par l'État, mais aussi par l'Institut français qui est très influent dans les mondes artistiques burkinabés, un nombre important de rappeurs revendiquent une toute autre démarche, voire même dénoncent une folklorisation du rap, entre guillemets. Ce conflit s'ancre dans des registres de légitimation et d'authenticité qui traduisent toute la complexité du monde du rap burkinabé et donc qui me paraît intéressant et important, bien que ma réflexion d'aujourd'hui ne constitue pas le cœur de ma thèse. Donc j'en viens au cadrage théorique concernant l'underground. Depuis les années 60, avec la création du CCCS, dont a parlé Murray Forman tout à l'heure, et la figure de Stuart Hall notamment, la culture est perçue par de nombreux chercheurs comme un site où s'affrontent des luttes de pouvoir et de reconnaissance, cadre désormais primordial pour penser nos terrains contemporains de recherche sur les mondes de l'art. En référence à Baker, évidemment. Tout un champ de recherche s'est ouvert sur ce qu'on a appelé les sous-cultures, les subcultures, contre-cultures, etc. Toutefois, cet engouement pour les cultures urbaines s'est parfois accompagné d'un rapport fasciné à l'objet, ce que Grignon et Passeron, puis Anthony Péqueux, par rapport aux études sur le rap français, ont analysé comme une oscillation entre populisme et misérabilisme. Ma démarche s'inscrit dans une volonté de dépasser ce rapport ambigu à l'objet d'étude qui entraîne des analyses souvent biaisées par les opinions et les goûts personnels. Je choisis donc d'utiliser le terme d'underground car il est employé localement et d'en expliquer le sens qu'il prend pour les acteurs. Mais de manière plus générale, l'underground se construit en opposition à une musique dite mainstream, grand public, commerciale et se veut anti-institution. Selon Jean-Marie Seca, l'underground se caractérise par, je cite, « la méfiance face à la commercialisation, le déni de l'imitation des vedettes, la recherche d'un public, d'un relatif leadership ou d'un vedettariat, la volonté de préserver une authenticité expressive et une démarche originale. Ceux-ci se veulent dissidents, en marge, opposés, mais demeurent tourmentés et donc mus par les normes majoritaires de la réussite et de la communication publicitaire. » Fin de citation. Donc être un artiste underground renvoie à un positionnement, une posture vis-à-vis d'une industrie culturelle de masse décriée, mais ne veut pas forcément dire invisible, méconnue. Celui-ci peut avoir un public, effectuer de nombreux concerts, tout en revendiquant une posture underground. Comme toute notion qui circule, et c'est ce qui m'intéresse, son sens évolue lorsqu'elle est réappropriée. En France, par exemple, certains artistes tournent dans de nombreux festivals, sont suivis par un large public, mais refusent d'être diffusés sur les grands médias comme la radio Skyrock pour les rappeurs ou de signer des contrats avec des majors. Au Burkina Faso, les clips de certains rappeurs underground sont parfois diffusés sur la télévision nationale, mais ils se revendiquent underground dans la démarche artistique et l'idée qu'ils se font eux-mêmes de la culture hip-hop. En termes de public au Burkina, on peut dire qu'une figure du rap burkinabé est reconnue par un large public national au-delà des amateurs de la culture hip-hop, alors qu'un artiste underground qui réussit acquiert généralement une reconnaissance au sein des mondes culturels officiels, d'un réseau d'expatriés et d'un public local d'amateurs de rap. À partir du début des années 2000 à Ouagadougou, les rappeurs les plus reconnus commencent à effectuer des concerts importants, parfois en live avec des musiciens. En termes de pratique scénique, le monde du rap se scinde peu à peu en deux, donc ceux qui pratiquent les concerts live et ceux qui organisent et participent au sound system, dans la ville. Ces deux manières de s'exposer en tant que rappeur révèlent des conceptions du rap différentes et des fréquentations des lieux distincts. En effet, les rappeurs les plus connus ne fréquentent pas ou très rarement les bars d'expatriés et les sound systems. Ma démarche est de partir de l'observation ethnographique de pratiques scéniques pour comprendre les différentes idéologies qui les sous-tendent. Plus globalement, si la musique rap s'est largement développée dans l'industrie musicale de masse, d'abord dans les pays occidentaux, l'organisation des sound systems perdure au sein de nombreux espaces urbains. Cette pratique née en Jamaïque dans les années 40, je vais très vite sur l'histoire, évidemment, j'ai pas le temps, s'est diffusée ensuite aux États-Unis où DJ Kool Herc et Afrika Bambaataa l'ont popularisée. Cette pratique s'est largement diffusée et elle est chaque fois réappropriée dans des contextes très différents. Le sound system est aujourd'hui revendiqué par les artistes underground burkinabés comme une appartenance aux origines d'une culture hip-hop dont l'évolution est jugée trop capitaliste, trop éloignée de ses racines, tant dans le discours prôné que dans l'esthétique. Ces artistes font ainsi référence à une manière spécifique de faire du rap qui est qualifiée localement de puriste et de conscient. Il s'appuie notamment sur un courant influencé par certains rappeurs américains des années 80, à l'instar de Public Enemy, et français des années 90, comme IAM, par exemple. Cette démarche trouve un écho auprès d'occidentaux installés ou de passage au Burkina Faso. Dans la ville de Ouagadougou, des sound systems sont organisés chaque semaine, dans des lieux très différents, que ce soit au cœur d'un quartier populaire, dans une rue, ou dans des bars de la ville, qui sont appelés des maquis, lieux souvent tenus par des Français ou des acteurs culturels burkinabés, mais aussi dans la cour de l'Institut français, un lieu pourtant hautement symbolique en termes de domination et de pouvoir institutionnel. Les acteurs qui organisent et pratiquent le sound system sont souvent les mêmes, qui circulent entre ces différents lieux. Si ces rappeurs peinent à rassembler un public burkinabé large, ils acquièrent au fur et à mesure une reconnaissance relative dans ce milieu où circulent de nombreux occidentaux venus d'horizons divers, mais tous attachés à une vision de la culture éloignée de ce qui serait commercial, mainstream, etc. Le sound system, site symbolique de la pratique underground du rap à Ouaga, est réinventé lors de soirées à l'Institut français dès 1998 par des rappeurs culturels d'abord burkinabés, puis français. Passionné de musiques underground, Camille, après avoir voyagé dans de nombreux pays, a décidé de s'installer au Burkina Faso et d'y créer un bar associatif en 2003, le Ouaga Jungle. Aujourd'hui, il dirige un studio d'enregistrement, produit des artistes, organise et anime des soirées. C'est en créant ce bar avec l'aide d'amis français chercheurs à l'IRD et d'instituteurs burkinabés que Camille rencontre des rappeurs et décide d'organiser des sound systems tous les jeudis. Donc je vais le citer un peu longuement. On avait donc cette idée de monter un truc en France. Finalement, je me souviens, j'étais en Inde ou au Népal, j'ai reçu un mail de Julien me proposant d'ouvrir un truc au Burkina. Moi, j'ai dit « Ah, ça m'intéresse ». Donc je suis venue ici, on a ouvert le Jungle, le bar, le 17 décembre. On a cherché un lieu, on l'a monté avec des instits d'ici. La partie artistique, c'était assez flou. Les instits, c'était des potes de Julien avec qui le projet s'était mis en place. C'était les premiers réseaux burkinabés qu'il avait ici. Des mecs carrés, sincères, mais pas forcément dans le même délire que nous. Je me souviens, quand on leur avait demandé quel nom ils voulaient donner au bar, ils avaient dit en moré, donc le moré, c'est une des langues majoritaires parlées au Burkina, le repère des jeunes hommes sérieux ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà, on a repéré un vieux maquis tout destroy, c'était un ancien maquis réputé il y a longtemps, donc j'ai tout retapé en 3 semaines avec un pote burkinabé, un rasta. C'est un jeune rasta qui s'est un peu improvisé guide pour Julien et Steph à Ouaga. Donc, dans cet extrait, Camille évoque un décalage important entre ses amis burkinabés pour qui le bar doit s'appeler le repère des gens sérieux, en moré, et occidentaux à la recherche de destroy, d'authentique, d'underground, qui finissent par l'appeler finalement le Ouaga Jungle. Ces différentes conceptions de goût en matière de sortie nocturne mettent ici bien en lumière l'écart entre des burkinabés de la classe moyenne attirés par des ambiances raffinées et notamment par une certaine image qu'ils ont de la culture française et des français attirés eux par des cultures underground et une certaine image de l'authenticité, une culture rasta, etc. Camille noue ainsi de relations fortes, des fortes relations avec Basta Ganga, Obscur Jafar, puis Déo de la Paix, qui organise chaque semaine les sound systems au sein de son bar, avec qui il partage les mêmes goûts en matière d'esthétique musicale, d'ambiance, etc. Aujourd'hui, acteur culturel central à Ouagadougou, il organise désormais des sound systems, les Ouagadougou Groove, dans la cour de l'Institut français, dont le principe est de mettre à l'honneur à chaque fois un quartier de la ville. Le fonctionnement de la soirée s'inspire des block parties parisiennes, un graffeur réalise une fresque pendant que les rappeurs montent sur scène, un DJ est là et parfois des danseurs. Cette scénographie constitue une véritable mise en scène idéalisée de la culture hip-hop telle qu'elle avait été pensée et pratiquée à ses débuts, notamment avec la Zulu Nation d'Afrika Bambaataa. En effet, il n'y a pas de danseurs hip-hop professionnels à Ouagadougou, à ma connaissance, malgré une forte institutionnalisation des mondes de la danse ces dernières années dans le pays, en particulier la danse contemporaine africaine. Le graffiti commence à se développer, mais de manière assez marginale. Et enfin, en comparaison avec les pays voisins, il existe très peu de DJ ou de beatmaker burkinabé, malgré l'existence du studio de Smoke, qui est là aujourd'hui, qui a enregistré et produit des instrumentales pour la plupart des groupes burkinabés depuis le début des années 2000. À part lui, ses rôles sont d'ailleurs principalement tenus par des expatriés, comme Camille ou encore DJ Gold, un Français fils d'expatrié ayant grandi à Ouagadougou. Je précise, cela dit, que mon dernier terrain remonte à 2014 et que peut-être que les choses ont évolué depuis. Donc la performance dans un sound system ne demande pas de répétition ni de préparation spéciale, contrairement à un concert live. C'est la pratique de la spontanéité qui est ici mise en avant. Les rappeurs posent leurs textes, ce sont rarement des improvisations, sur des instrumentales françaises ou américaines, et ce sont souvent les mêmes textes qui sont réinterprétés sur plusieurs instrumentales. L'idée est donc de savoir adapter son texte à des rythmes différents. L'une des thématiques récurrentes est justement la démarche underground, l'affirmation de sa propre originalité, de son authenticité, ce qui entre d'ailleurs en résonance avec le travail de Marie Sonnette sur les discours exégétiques des rappeurs français. Dans la cour de l'Institut français se côtoient le temps d'une soirée des rappeurs, des touristes, des expatriés qui travaillent dans les mondes culturels ou de l'humanitaire et un public d'habitués de l'Institut français venu simplement manger ou boire un verre sans prêter trop d'attention à ce qu'il se passe. Les artistes passent tour à tour sur scène. Arrive Art Melody, rappeur burkinabé produit désormais par Nico, un bordelais passionné de musique noire américaine qui a créé le label Tentacule R, habillé d'un jean baggy, vêtement évidemment caractéristique du rap français des années 90, d'un large t-shirt blanc rehaussé d'une veste militaire, d'une casquette rouge et de chaussures Timberland. Il prend le micro pour dire deux mots avant que la chanson ne démarre. Donc il dit « Nous, on est là. Nous, on aimerait qu'il y ait plus de jobs pour les jeunes, que le lundi ne ressemble pas à un dimanche, parce que là, le lundi, vous verrez les jeunes en train de faire je sais pas quoi, mais pas parce que les jeunes ne veulent pas travailler, parce qu'on ne leur propose pas. Mais nous, on n'a pas fait comme certaines personnes, on n'a pas refusé d'emploi, nous, on a trouvé un chemin, c'est ça le hip-hop. » Il dénonce ainsi le manque d'opportunités professionnelles pour la jeunesse burkinabée, tout en s'affirmant contre ceux qui refuseraient des emplois. Dans ce contexte, il se place comme quelqu'un qui a délibérément trouvé sa voie contre ceux appelés péjorativement des assistés. Ce discours cristallise, à mon avis, la complexité du positionnement de ces artistes. Se revendiquant à la fois comme totalement indépendants socialement comme musicalement, ils sont aussi les premiers à chercher à rencontrer des Occidentaux qui pourraient les produire et les faire voyager. Art Melody a longtemps été un rappeur ignoré au Burkina Faso jusqu'à ce qu'il rencontre Nico, donc ce producteur bordelais, venu faire un documentaire au Burkina, à la cafette de l'Institut français, où le rappeur avait l'habitude de traîner dans cette optique de faire des rencontres fructueuses. Dans l'extrait évoqué juste avant, la valorisation de cet auto-entrepreneuriat prononcée à l'Institut français me paraît entrer fortement en résonance avec un discours politique libéral français, ce qui peut apparaître comme une contradiction, sans que celle-ci ne soit vécue comme telle, évidemment, par la personne concernée. Et cette observation renvoie d'ailleurs à l'article de Jérôme Guibert sur l'éthique du hip-hop et l'esprit du capitalisme. J'en viens donc à mon deuxième point. Pourquoi ça fait ça? C'est où? Je ne sais pas. Pardon? C'est pas ça? Ça s'est éteint tout seul. Bon, je continue. Donc, j'en viens donc à mon deuxième point plus rapide qui découle du premier, à savoir que les sound systems constituent au fond pour ces artistes des lieux symboliques de sociabilité, une ouverture vers des opportunités, des rencontres fructueuses, et par extension, cette pratique permet d'exister différemment dans la ville de Ouagadougou. Ce type de soirée représente d'abord un entre-soi, tissant un réseau d'interconnaissances en marge de manifestations plus officielles comme le festival Ouaga Hip Hop, véritable vitrine internationale pour le rap burkinabé et en particulier le tradi moderne. Dans les discours des acteurs... Merci. Ok. Dans le discours des acteurs, ce dernier laisserait de moins en moins de place aux artistes locaux émergents. Ainsi, organiser soi-même des sound systems leur permettrait de se donner une visibilité au sein de la scène hip-hop burkinabé et de faire vivre cette branche du rap qu'ils jugent délaissée par les promoteurs culturels. Les journées passées dans le quartier entre amis ne sont pas propices aux opportunités et aux rencontres possibles dans d'autres lieux de la ville, comme ces bars d'expatriés ou l'Institut français qu'ils peuvent fréquenter en tant qu'artistes. Par cette pratique du rap, ces rappeurs élargissent leur réseau en tissant des relations avec certains occidentaux qui veulent travailler avec eux, en les produisant, en tournant leurs clips, en leur envoyant des instrus, en les invitant en Europe, en tournant des documentaires, etc. Beaucoup d'entre eux sont aussi également en couple avec des femmes blanches, et ces lieux sont donc des endroits d'abord où se retrouver, mais aussi où faire des rencontres fructueuses. Busta Ganga, Obscur Jafar et Dehoud, évoqués avant, créent notamment un projet avec un journaliste et beatmaker danois, Ami de Camille. Intitulé « L'homme, c'est l'homme », ce spectacle regroupe quatre rappeurs et un peintre sur une même scène. Donc je recite Camille. « Donc on a réussi à faire ce truc à Marseille, qui était assez chouette mais qui n'a pas beaucoup pris. Et puis on est parti au Danemark faire une dizaine de jours, faire plusieurs bouts de spectacle, dont un à Distorsion, la grosse teuf de Copenhague, juste après une performance de transsexuel qui se mettait des carottes dans le derrière. Et nous, on est arrivé avec « L'homme, c'est l'homme », les quatre MC homophobes, les mecs, ils se couraient après pour se mettre les micros dans le derrière, et nous, on passait après avec les mêmes micros. » Donc Busta Ganga, Dehoud, Obscur Jafar et Wenlamita Kuka se retrouvent donc au Danemark, au sein d'une importante soirée techno, radicalement éloignée de l'image qu'ils pouvaient se faire d'une tournée en Europe. D'ailleurs, lorsque je les revoyais après ce séjour, je remarquais qu'ils évoquaient leur séjour en Europe sans rentrer dans les détails des scènes sur lesquelles ils s'étaient produits, signe d'une certaine honte et d'une certaine gêne. Malgré ce décalage, ces rencontres restent des occasions d'avoir accès à une certaine reconnaissance et à une visibilité dans des mondes éloignés de leur vie quotidienne, d'autant plus que les séjours effectués en Europe sont toujours synonymes de prestige pour l'entourage resté au pays. Également, plusieurs d'entre eux ont fini par partir vivre avec leurs copines en France ou en Allemagne. Donc le milieu underground du rap burkinabé regroupe des individualités aux influences variées, j'ai pas pu rentrer dans les détails évidemment, mais dont le commun est cette relative non-visibilité qui constitue autant une fierté par la possibilité de clamer « nous sommes les vrais, authentiques, etc. » qu'une frustration, certains rêvant toujours de faire carrière. Cependant, cette non-visibilité s'accompagne d'une légitimité auprès d'un public d'expatriés, statut qui leur permet de sortir d'un quotidien routinier, banal, en fréquentant les bars d'expatriés, en organisant des sound systems dans lesquels de nombreux Occidentaux se sont rendus pour filmer ou prendre des photos, ou encore en montant des projets musicaux afin de pouvoir voyager. Faire du rap apparaît comme un gage d'authenticité dans ces réseaux-là, mais cette pratique tend à être naturalisée. Entre guillemets. Donc, pour être légitime et aidé par ces acteurs culturels étrangers, ils doivent finalement coller à l'image d'une jeunesse noire, urbaine et dominée. S'ils se mettaient à travailler leurs textes, leurs performances scéniques, bref, à construire une carrière, on peut se demander s'ils seraient encore perçus comme authentiques. Constat également fait par Chloé Buir. Dans un article sur le rap angolais où elle cite notamment Loïc Vacan, je la cite, « Toutefois, comme Vacan le résume bien en parlant d'institutions à deux faces, la revendication du ghetto comme stylisation de soi ne suffit pas à s'émanciper de la domination institutionnelle. Bien au contraire, en se posant comme les figures de proue du ghetto, les artistes hip-hop intériorisent les codes de leur oppression et s'interdisent la possibilité de se définir autrement qu'en référence à la pauvreté et à la marginalité. » Fin de citation. Faire du rap serait alors une preuve d'inscription à une culture hip-hop globale, faisant d'eux localement des personnalités à la fois cosmopolites et différentes, mais aussi dominées. Contrairement aux figures de rap connues du grand public qui ne fréquentent pas les autres rappeurs de manière quotidienne, ils se croisent souvent seulement pour des événements ou des projets en commun, ces rappeurs underground forment un collectif, se fréquentent au quotidien, ce qui constitue une forme de solidarité et de soutien mutuel. Ainsi, l'état d'esprit se renforce avec l'effet du groupe, raison pour laquelle ceux qui cherchent réellement à vivre du rap sont obligés de s'en éloigner. Ces formes de détachement sont souvent source de tension et de critique de la part des autres, sauf si l'artiste qui acquiert une certaine reconnaissance continue de fréquenter les sound systems et de les soutenir. Ainsi, par le biais d'une activité qui dépend majoritairement de l'établissement de bonnes relations avec des étrangers, en particulier des blancs, ces rappeurs burkinabés, tout comme les guides touristiques maliens étudiés par Anne Doké ou les aventurières sénégalaises dont parle Thomas Fouquet, réussissent à exister dans la différence à deux niveaux, d'abord aux yeux de la société au sein de laquelle ils évoluent, mais aussi dans les relations avec ces blancs, entre guillemets. C'est dans cette relation à l'altérité que ces rappeurs burkinabés deviennent des ambassadeurs d'un rap authentiquement underground. Voilà, je vous remercie.
Un grand merci.